Bonjour à tous, nous sommes dimanche, il est 8h30 quand j'enregistre ce petit mot. Des conditions particulières pour un message particulier, nous sommes le dimanche 23 mars, en pleine épidémie, et nous sommes confinés chacun chez nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas vous qui venez écouter un message à l'église, mais c'est plutôt le message qui vient vers vous. Et qui va même peut-être se faire entendre à des personnes qui ne souhaitent pas chez vous. Alors bon, je m'excuse de m'initier comme ça dans votre maison. Vous écoutez ce message, vous êtes peut-être dans votre canapé, sur votre terrasse, ou dans votre chambre à coucher. J'ai prévu un message qui va pouvoir s'adapter à ces conditions. Il est constitué de quatre parties, entre lesquelles on va pouvoir faire une pause. Peut-être aller se servir un café, surveiller le repas, faire sortir le chien, aller voir les enfants. Et comme il y a possibilité de faire des pauses, il y a moins de contraintes de temps, le message sera peut-être un peu plus long que d'habitude, on va profiter pour faire davantage de lecture. La parole de Dieu est captivante, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, le vecteur qui vous la communique est limité, et le défi pour moi sera de capter votre attention pendant une si longue période, et le défi pour vous de m'écouter jusqu'au bout. Alors, que le Seigneur nous vienne en aide à tous. J'ai fait le choix de poursuivre l'épître aux Corinthiens que nous avions commencé, vous savez, à l'automne dernier. Bon, ça va nous changer un petit peu les idées, je me suis dit. Et vous verrez qu'on peut tout de même raccrocher ce passage de 1 Corinthiens chapitre 5 que nous allons lire dans un instant à l'actualité. Donc nous avions vu ensemble les quatre premiers chapitres, cette lettre de Paul s'adresse à une église qui évolue dans un contexte culturel bien éloigné du christianisme et de ses valeurs, un peu comme le nôtre. Et Paul doit les gronder un peu, hein. Il les reprend, on a vu ça pendant les premiers chapitres, combien ils avaient l'unité de l'église était mal en point. Et donc nous allons continuer à lire et à écouter ce que l'apôtre Paul voulait communiquer à cette église. Alors je fais la lecture de 1 Corinthiens chapitre 5. Vous pouvez chercher dans vos Bibles 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire dans la seconde 21. Chapitre 5, verset 1. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle, de l'impudicité parmi vous. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Verset 3. Quant à moi, absent de corps mais présent à l'esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez, au nom de notre Seigneur Jésus, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parle pas d'une manière absolue des gens du monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, de les voleurs, les idolâtres. Autrement, il nous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, est idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. Et c'est à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur. N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Voilà, vous avez noté qu'il est fait référence à une lettre précédente que l'apôtre Paul avait envoyée qui ne nous est pas parvenue. Reprendre avec esprit. Première partie donc pour faire la jonction, avec ce que nous avions vu en décembre, nous rafraîchir les idées, nous remettre un petit peu dans le contexte. Nous avions mis en évidence la méthode qu'utilisait l'apôtre Paul pour reprendre les Corinthiens. Comment dire des choses désagréables? Car parfois, il faut dire des choses désagréables aux oreilles de ceux qu'on aime. J'avais résumé cette méthode avec quelques mots qui constituaient le mot avec esprit. Avec esprit, donc chaque lettre est rattachée à un mot. Donc je vais reprendre un petit peu tout ça. Donc il y a le mot avec. Quelles questions faut-il nous poser avant d'ouvrir la bouche ou avant de prendre le stylo ou de taper sur l'ordinateur la lettre que l'on voudrait envoyer à une personne qui a besoin d'être repris. Alors avec, il y avait le A de l'autorité. Est-ce que j'ai l'autorité pour intervenir? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est mon rôle? Le V, comme la vérité dans l'amour. Est-ce que j'aime la personne que je désire reprendre? Dire les quatre vérités à quelqu'un, c'est facile, mais est-ce que je peux les dire avec amour? Question qu'il faut se poser. Avec ensuite, il y a la lettre E comme erreur. Suis-je sûr de moi? Est-ce qu'il y a au moins deux témoins? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur sur l'accusation? Car ce serait autrement terrible. En voulant faire du bien, je ferai du mal. En voulant arranger la situation, je mettrai de l'eau sur le feu, de l'huile sur le feu. Et le C comme le contexte. Est-ce que je connais le contexte de la personne que je veux reprendre? Cela est très important. Si on ne connaît pas le contexte, il vaut mieux être très prudent et s'assurer que l'on a bien toutes les informations. Avec donc les conditions avant d'intervenir. Et la méthode, c'était le mot esprit. Les premières lettres du mot esprit, c'est le E. Comme exposer la faute, dire clairement ce qui ne va pas, sans tourner autour du pot. C'est ce que fait l'apôtre Paul. Il dit les choses clairement et même il les répète, si nécessaire, pour que ce soit bien clair, bien entendu. Exposer la faute. Le S de la solution, dire ce qui ne va pas, c'est facile. Apporter une solution pour sortir de la situation de péché, c'est plus difficile. Et pourtant, c'est ce que la personne a besoin. Elle a besoin d'une solution. Lui dire sa faute, peut-être elle-même la connaît, mais elle a besoin d'une solution pour sortir de sa situation. Le S. Et le P comme positif. Il y a des choses positives chez la personne. Et on a vu que Paul, dans les premiers chapitres, a mené quelque chose de positif à ses Corinthiens par rapport à ce qu'ils étaient. Et je pense que c'est une bonne chose que de s'adresser à quelqu'un en ayant des choses positives à mettre en avant qui le concernent. R. Le R comme la rupture. Il faut clairement dire que les choses doivent changer. Il y a de y avoir une rupture. C'est pas tout de dire ce qui va pas. C'est pas tout même d'avoir une solution. On est positif. Mais il y a à un moment donné une rupture à faire avec la situation. Il faut changer, il faut bouger. C'est le R. Et le I comme illustration. Des petits exemples, cela aide à se faire comprendre. Et c'est ce que fait l'apôtre Paul. Il illustre son propos. Il donne des exemples pour faciliter la compréhension. Le T comme théologie. Notre propos doit s'appuyer sur des éléments théologiques, sur la parole de Dieu pour pouvoir convaincre. C'est important, c'est ce qui donne du crédit, le poids, le T comme la théologie. Esprit, S-E-S-P-R-I-T. Et on pourrait rajouter à cela, donc, avec esprit, donc, avec prière. Et c'est quelque chose qui est sous-entendu. Avant d'intervenir, de prier, l'apôtre Paul, nous savons qu'il priait beaucoup pour les églises, et il devait prier pour lui-même avant que d'intervenir, s'en remettre à Dieu, se confier à Dieu, confesser son péché, vraiment se placer devant le Seigneur. Avant de faire une intervention. Paul, dans notre passage de chapitre 5 que nous venons de lire, ne s'adresse pas à la personne impudique, au débauché, mais à l'Église, qui aurait dû réagir et ne pas laisser faire la situation. Voyons voir comment cette Paul a construit un petit peu son intervention ici dans cette lettre. Versets 1 et 2. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Paul dit ce qui ne va pas. Et il commence, là il est direct, il commence par ça, donc c'est notre fameuse lettre E, exposée. Versets 3 et 5. Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrer un tel homme à Satan pour la destruction, la ruine, hein, de la nature pécheresse ou de la chair, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Et donc là, Paul apporte la solution. Il faut juger cette personne et elle doit être exclue. Il apporte la solution. Versets 6 à 8. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été immolé, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain de la méchanceté et du mal, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Paul amène ici des éléments théologiques pour justifier le fait qu'ils doivent rester purs, qu'ils ne doivent pas laisser le péché pénétrer dans l'Église pour faire des dégâts. Le T de la théologie. Verset 7 également, purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Il rappelle ici des choses positives du fait qu'ils sont sans levain à cause de Jésus-Christ. Donc, il n'amène pas que des choses pour casser, pour démolir, mais il rappelle ici cet élément fondamental. Il n'enfonce pas les Corinthiens plus bas que terre. Il rappelle ici, vous êtes sans levain. C'est ça votre nature. Versets 9 à 11, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir la relation avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parle pas d'une manière absolue. Les gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement, il nous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur. De ne même pas manger avec un tel homme. Et ici donc Paul donne des illustrations, vous le voyez, des exemples concrets, pas manger avec lui, etc. C'est notre lettre I. Il amène des exemples, des illustrations pour bien faire comprendre de quoi il s'agit et ce qu'il attend de ces chrétiens. Versets 12 et 13. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Cette dernière phrase, chassez le méchant du milieu de vous. Et là, il y a quelque chose qui doit être fait. Il faut faire partir de l'Église la personne qui est impudique. Et donc, c'est le R de la rupture. Le R de la rupture. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide à travers ce texte à comprendre son contenu, ce que Dieu veut nous dire à travers lui, les applications que l'on peut avoir pour notre vie d'aujourd'hui, du 21e siècle. Seigneur, aide-nous, oui, à comprendre ta parole, à en saisir le sens, aide-nous également à être des imitateurs de Paul, comme il demande qu'on peut l'imiter, et de la façon dont il intervient, de la façon dont il s'y prend pour parler à ses Corinthiens, il y a des choses très graves à dire, et la façon dont il le fait, Seigneur, est un exemple pour nous, nous aussi, dans notre rôle d'éducateur, dans la famille, dans notre rôle peut-être au travail, si nous avons quelques responsabilités, et dans notre rôle d'adulte, nous avons parfois le devoir d'intervenir. Et Seigneur, donne-nous les capacités pour cela. Permets que nous le faisions avec sagesse, comme pouvait le faire l'apôtre Paul. Et Seigneur, que nous puissions mettre tous ces exemples en pratique dans notre vie quotidienne pour le meilleur, Seigneur. Et nous te faisons confiance. Par Jésus. Amen. Voilà la fin de première partie. Donc, si vous voulez faire une petite pause maintenant, vous le pouvez. Nous allons voir la partie suivante qui est la moins réjouissante. Excusez-moi. La gravité de l'impudicité. La gravité de l'impudicité. Nous sommes dans ce texte de 1 Corinthiens 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation décrite? Un homme de l'église s'est mis en ménage avec la femme de son père. Ce n'était pas sa mère. On ne sait pas pourquoi son père s'était remarié. Était-il veuf, divorcé, remarié, polygame, séparé de sa deuxième femme? On ne sait pas. Le tout est que le fils couche avec la femme de son père. Et cela ne choquait pas plus que cela les Corinthiens. Est-ce que cela vous choque ce matin? Peut-être que pas tant que ça finalement. Ce qui est certain, c'est que cela choque la parole de Dieu. Cela ne passe pas du tout. Et on va voir cela maintenant en détail. On va prendre le temps, parce que nous sommes dans un contexte culturel du 21e siècle très particulier. Comme on dit, on a perdu beaucoup de repères. Et on va ouvrir maintenant le manuel du prêtre de l'Ancienne Alliance. On va aller voir dans l'Ancien Testament, le livre de Lévitique, le livre de la loi. On va faire de grandes lectures pour que cette question d'impudicité, ça rentre bien dans notre tête ce matin, dans notre cœur, pour qu'on n'ait pas besoin d'y revenir, hein, que ce soit quelque chose qui soit durable et qui s'inscrive dans le long terme. Hein. On ne va pas parler de ça tous les jours parce que ce ne sont pas des choses qui sont joyeuses à évoquer. Lévitique chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Donc, ces instructions sont données dans le désert, entre le chemin entre l'Égypte, donc le peuple est sorti d'Égypte et ils sont en route vers la terre promise. Ils ont séjourné 40 ans dans le désert, ils ont reçu la loi. Verset 3 du chapitre 18 de Lévitique. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez pas leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. C'est le passage, commandement qui nous coupe. Concerne ce texte ce matin. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ta mère, ou fille de ton père, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père. Excusez-moi. C'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, c'est de la proche parente de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras pas la nudité de du frère de ton père, tu ne t'approcheras pas de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras pas la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents, c'est un crime. Tu ne prendras pas la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras pas de commerce avec la femme de ton prochain pour se souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois, mes ordonnances. Vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous, car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, vous les pratiquerez, aucun des usages abominables qui se pratiquait avant vous, vous ne vous souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Grand chapitre ici, relatif aux mœurs. Et si vous tournez la page, deux pages plus loin, on resserre le couvert, on fait la deuxième couche. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livrent à Moloch, l'un de ses enfants, il sera puni de mort. C'est sacrifié à une idole, un enfant donc. Le peuple du pays le lapidera, et moi je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré à ses enfants, à Moloch, souillé mon sanctuaire, profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme, qui livre de ses enfants à Moloch, s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui, en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père, découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur leur tête. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une abomination, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité, qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente, ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois, toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous amène pour vous y établir ne vous vomisse pas. Vous ne suivrez pas les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous dis, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Deuxième couche donc, et puis il y a même une troisième couche, Deutéronome chapitre 27, 15 à 25. Là, ce sont le peuple qui répond à tout cela avant de rentrer dans la terre, terre promise. Il devait prononcer des malédictions et des bénédictions. Et la loi a été inscrite sur des grandes pierres. Et voici donc ce que le peuple a déclaré avant de rentrer en terre promise. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira « Amen ». Maudit soit l'homme qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le monde, tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi, qui ne les met pas en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Ouf. Alors, comment synthétiser un petit peu ces commandements et ces préceptes liés aux mœurs. Je pense qu'on est ici dans le cadre de la protection de l'ordre créationnel. C'est l'homme et la femme ensemble qui perpétuent l'humanité. Genèse chapitre 1, versets 24 à 28, passage qu'on connaît bien. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Il y a ce mot « selon leur espèce » qui revient. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fut fait ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il les créa, homme et femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » L'accouplement de deux hommes ensemble ou d'un homme avec un animal sont absolument contre nature. Les relations sexuelles sont réservées au mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils formeront une seule chair. Et dans notre cas, on a bien vu. Pour le fils, voir la nudité de la femme, de son père, c'était voir la nudité de son père. L'homme et la femme mariés sont une seule personne. Et donc, il y a des barrières qu'il est absolument indispensable de ne pas franchir, de rester derrière. Donc, il y a une protection de l'ordre créationnel. Il y a aussi, dans tous ces passages, un contexte général de protection de la vie. Quand un homme prenait son enfant pour l'offrir à une idole, c'était dans le but d'obtenir la faveur de cette idole, d'obtenir quelque chose pour lui-même. Et ainsi, il manifestait que soigner sa propre vie ou surveiller son propre intérêt était plus important que la transmission de la vie qui s'opérait à travers l'enfant que Dieu lui donnait. Donc on est dans une culture de mort. On préfère faire mourir sa postérité pour avoir un avantage. C'est l'égoïsme, et l'égoïsme, c'est la mort, hein, c'est la mort. Vous savez, on est dans une société qui est très difficile, qui sera sans doute jugée très sévèrement par les générations qui nous ont procédé. On est dans une société où l'égoïsme de l'adulte donne la mort à tour de bras. Ça se fait à travers les 220 000 gestes d'avortement dans notre pays tous les ans. Les tout-puissants désirs de l'adulte passent avant l'intérêt de l'enfant. On a un projet de loi PMA qui va dans ce sens actuellement, s'opposer à l'ordre créationnel et de ne pas protéger la vie. Voilà pour l'ancienne alliance, mais qu'en est-il de l'enseignement de Jésus sur cette question d'impudicité? Que dit le Nouveau Testament? Que dit la Nouvelle Alliance aux chrétiens? Eh bien là, on est dans la continuité parfaite de l'Ancien Testament. Donc le mot grec pour impudicité qui se trouve dans nos Bibles, c'est le mot grec pornoia, hein, et c'est notre mot pornographie a pour racine ce mot grec pornoia, donc ça situe bien ce mot. Et Jésus, vous savez, a proclamé le fait que le mariage était impossible à rompre. Le divorce, c'était pas dans le plan de Dieu, mais il est frappant de noter que dans Matthieu chapitre 5 et aussi en Matthieu 19, 9, le Seigneur exclut le cas de l'impudicité. Et on comprend pourquoi, hein, après avoir lu l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 5, verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, il est noté, ou d'impudicité, plus littéralement, de pornoïa, hein, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de pornoïa, d'impudicité. Et on peut facilement réaliser l'impossibilité d'un homme et une femme qui font une seule chair, et voilà, il y a l'un des deux qui va se débaucher avec un animal. C'est impossible que la cellule puisse tenir dans ces conditions-là. Donc, le fait que le Seigneur autorise la séparation, la divorce en cas d'impudicité marque la profondeur de péché que représente l'impudicité. Premier point. Deuxième point, c'est un des quatre commandements de la loi auxquels le chrétien doit se soumettre. Et c'est remarquable que c'est répété trois fois. Donc dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 20, la loi n'est pas plus applicable pour les chrétiens, la loi de Moïse qu'on vient de lire, sauf pour ce qui concerne, entre autres choses, l'impudicité. Acte chapitre 15, verset 20. Donc, c'est Jacques qui va mettre en place un principe par rapport aux chrétiens qui se convertissent, qui sont d'origine païenne, qui ne sont pas juifs. Qu'est-ce qu'il faut leur dire par rapport à la loi? Chapitre 15, verset 19, je lis. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, par rapport à la loi de Moïse, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, donc de la fameuse impudicité pornoïa, des animaux étouffés et du sang. Quatre prescriptions. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on lit tous les jours dans les sabbats et les synagogues. Et donc ce précepte on va le retrouver trois fois également dans le livre des Actes. Trois fois, c'est quatre préceptes auxquels les chrétiens doivent s'attacher et qui viennent de la loi de Moïse. Quatre préceptes qui sont soulignés, et l'un d'eux concerne l'impudicité. Donc la gravité de l'impudicité dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 5, verset 3, l'apôtre Paul recommande également que l'impudicité ne soit même pas évoquée parmi les chrétiens. Ça ne doit pas figurer dans les conversations, ce n'a pas être un objet de conversation dans l'Église de Jésus-Christ. C'est un mot que l'on ne prononce même pas. Des sujets autour de l'impudicité, ce sont des sujets de conversation tabous dans l'Église de Jésus. Et enfin, l'impudicité est ce qui caractérise, vous savez, dans l'Apocalypse, il y a la révolution de cette Babylone, de cette grande prostituée. Et donc, c'est l'impudicité qui caractérise cette femme qui sera réduite à néant. Voilà un petit peu ce que je vous propose par rapport à la gravité de l'impudicité et qui explique la réaction vive de l'apôtre Paul devant ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Il cite un exemple, mais vous avez vu, il devait y avoir d'autres choses qui n'étaient pas claires également dans cette église. Voilà, vous pouvez faire une petite pause maintenant si vous voulez, avant que l'on continue. Nous allons voir la solution que propose Paul face à l'impudicité dans l'église. Ce sera la troisième partie. La solution face à l'impudicité dans l'église. Juger et exclure. Juger et exclure. Je relis le chapitre 5 de la première Corinthienne, nous sommes au premier épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 3 et 4. Donc il parle avant de ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe, et quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction, la ruine de la nature pécheresse de la chair, plus littéralement, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. L'impudicité est quelque chose de mauvais, de grave, et la personne doit être refoulée de l'Église le plus tôt possible. Pour autant, une exclusion ne se fait pas à l'arrache ou en catimini. Il y a un jugement public prononcé par l'Église et au nom de Jésus-Christ. Donc c'est le Seigneur lui-même qui a donné cette méthode. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18. Donc c'est des versets qu'on n'aime pas souvent mettre en œuvre, bien sûr. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Matthieu 18, 15. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se déclare sous la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc l'Église a une autorité pour exclure une personne. Et c'est quelque chose qu'elle exerce au nom du Seigneur Jésus-Christ, et c'est tout à fait sérieux, c'est tout à fait scripturaire que d'exclure un frère ou une sœur de l'Église parce qu'il y a un péché grave. Juger et exclure. Ensuite, livrer à Satan. Versets 15 à 18. Pardon. Verset 5, 1 Corinthiens 15, 5. Livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors, livré à Satan, qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Pierre dit que le diable, Satan, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il ajoute, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Première de Pierre, chapitre 5, verset 8. Le diable est dangereux, il convient de veiller et lui résister. On peut imaginer un village dans la brousse africaine, et autour du village demeure un lion qui tourne, qui rôde. Et si quelqu'un sort du village sans prendre garde, il pourra lui sauter dessus. Ou bien, s'il n'y a plus de surveillance dans le village, si on ne lui oppose plus de résistance, le lion rentre et fait un carnage. Le village représente notre vie intérieure. Ou bien il représente notre église. Livrer à Satan, c'est exclure du village. Et la personne va se retrouver seule, sans protection, et va se faire dévorer. C'est une sorte de condamnation à mort, qui n'est pas physique, comme dans les textes de Lévitique, de l'Ancienne Alliance, que nous avons lu tout à l'heure. Comment cela peut se passer, se passe-t-il concrètement? Dans Romains chapitre 1, il est écrit concernant ceux qui font volontairement le mal que Dieu les livre à leur passion et à leur mauvais désir. Vous désirez le mal? Allez-y, je vous retiens plus. Vautrez-vous dedans. Là, il ne s'agit pas tout à fait de la même chose. L'idée que la chair soit détruite. Peut-être on peut comprendre que la vie même de la personne soit abrégée. Mais un chrétien né de nouveau ne peut pas perdre le salut de son âme. Ce qu'il est écrit ici, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. En tout cas, l'objectif est de ne plus contaminer l'Église, qui est le corps de Christ. Vous savez, quand il y a une gangrène, hein, c'est grave, ce sont des infections qui sont graves et les médecins sont obligés de couper pour que la pourriture ne gagne pas tout le corps. La seule chose à faire, c'est de couper le membre qui est gangréné. C'est quelque chose qui est triste et douloureux et qui va manquer, ce membre, il va manquer après, hein. Juger et exclure, livrer à Satan. L'apôtre Paul ne s'arrête pas là et on a besoin de l'enseignement qui suit. Paul rappelle l'identité de l'Église. Le problème majeur des Corinthiens était leur tolérance au péché d'un des leurs. Un péché fondamental, l'impudicité. Ils n'avaient pas de réaction à cela. Alors l'apôtre a pris l'image du levain dans la pâte. On met un tout petit peu de levain dans la pâte, et puis on laisse comme ça, et puis la pâte va gonfler, le levain va se répandre dans toute la pâte, et va la faire monter. C'est l'image de l'apôtre. Pour ce qui nous concerne maintenant, on peut prendre l'image d'un virus qui pénétrerait dans un organisme, et qui ne trouverait aucune résistance, aucune réaction de lutte contre ce corps étranger qui pourrait se disséminer sans réaction aucune. Je lis le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. L'Église a été purifiée par le sang de Christ. Sa nature, c'est d'être pure. Sa responsabilité, c'est de rester pure. Notre corps a été créé pur. Et s'il n'y a pas, s'il y a, pardon, un microbe qui rentre, le corps lutte pour le détruire et retrouver la pureté. C'est la responsabilité du corps que d'agir ainsi. Qui concerne l'Église, dans notre conversion, nous recevons une nouvelle nature pure à l'image de Christ. Et notre responsabilité est de se garder pur en bonne santé spirituelle. Et le Seigneur et son Esprit est là pour nous aider, pour nous assister, pour nous porter. Versets 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il nous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez le méchant du milieu de vous. Parfois, on doit marcher dans la boue. Il n'y a pas très longtemps, Dédé a dû intervenir sur la fosse septique de sa maison. C'est un travail très désagréable. Mais tant que la saleté reste dehors, il n'y a pas de problème vital. Notre peau constitue une barrière efficace et l'intérieur du corps n'est pas touché. Mais si on a une petite plaie, là il faut s'en occuper, car il y a une porte ouverte sur l'extérieur et toutes les saletés peuvent entrer. L'identité de l'Église, à la fois rappel de sa pureté et à la fois la responsabilité de se garder pur. Nous allons maintenant terminer avec les applications pour l'Église. Et donc, quatrième partie. Vous pouvez faire une petite pause si vous voulez relire ces passages ou réfléchir à ce que je viens d'exposer. C'est possible. Les applications pour l'Église. Bon. Déjà qu'on n'a pas de problème d'impudicité tel que l'apôtre relate ici, de moi qui serais en situation de pornoïa, merci Seigneur. Nous avons évoqué des choses très sales, très mauvaises en lisant les textes de Lévitique et on s'est peut-être senti souillé d'entendre tout cela. Et c'est plutôt bon signe. Ensuite, nous avons rejeté toutes ces choses dehors. Et maintenant, cela va mieux. Bon, nous sommes tous confinés chez nous, on est à l'abri du monde extérieur, hein, pas tout à fait. La télévision et Internet sont là, et le monde et ses valeurs s'invitent aussi dans la maison beaucoup plus que ce que j'évoquais au début de cet enregistrement, en disant qu'il allait, que je rentrais chez vous avec cet enregistrement. Ben là, la télévision et Internet rentrent beaucoup plus. Que ce que j'ai pu le faire. Le monde rentre dans nos maisons. Et quand les mauvaises pensées se présentent à notre esprit, que faire? Dehors. Je suis pur et je veux le rester. Alors, mauvaises pensées, dehors, allez au diable, c'est terminé. Et si on a du mal à chasser les pensées, le Seigneur est là. Qu'est-ce qui m'empêche de penser à lui, de détourner mes pensées et de penser à lui, à ce qu'il est, à ce qu'il a fait, à ce qu'il fera, penser à Jésus-Christ, tourner nos pensées vers Jésus-Christ. Et les mauvaises pensées, vous verrez que elles ne trouveront plus la place chez vous et elles seront chassés loin de chez vous. Alors, ça c'est une première application. Hein. Les mauvaises pensées arrivent, dehors, dehors. Je suis pur et je veux le rester. Une décision que je prends, c'est ma responsabilité, je le fais, j'ai le droit de vous mettre à la porte de mon cœur, à la porte de mes pensées, dehors, dehors, allez au diable. Ok. On peut, une seconde application très concrète et connectée un petit peu à notre actualité. Je voudrais mettre en évidence la pertinence de la parole de Dieu. Comment nous pouvons lui faire confiance? Paul écrit à Timothée, la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Alors je voudrais relire les décisions apostoliques qui nous concernent par rapport à l'ancienne alliance. On va lire la troisième en acte, chapitre 21, verset 25. Acte 21, 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, on irait faisandé aujourd'hui, et de la débauche. Quelle est l'origine des grandes épidémies de ces dernières années? J'ai regardé un petit peu. Dans les années 80 est apparu le sida, vous savez, hein. 25 millions de morts dans le monde. C'est une maladie endémique du singe qui est passée à l'homme. Il y a trois hypothèses. La plus rassurante pour à l'oreille des Occidentaux, et c'est la version officielle qui les arrange, c'est qu'un chasseur de singes a dû se faire mordre par un animal qui était malade et puis attraper le virus de cette façon-là. Il y aurait un passage de la bête à l'homme dans ces conditions-là. Il y a des siècles que les hommes chassent des singes, des siècles que les singes ont cette maladie endémique, mais voilà, c'est la version qui arrange les officiels occidentaux. Une autre hypothèse, est-ce que la fabrication d'un vaccin a été réalisée à partir de cellules de singes contaminées par le virus? Et à travers ce vaccin, le virus est passé massivement à l'homme. Et il y a une troisième hypothèse qui expliquerait l'apparition du sida donc aux États-Unis, à Los Angeles, en premier. Donc, un homme de Los Angeles qui se serait adonné à la zoologie, ce dont évoque le livre de Lévitique, de la zoologie avec un singe malade, ramené d'Afrique, et qui aurait contaminé ses autres partenaires humains. En 2003 est apparu le SRAS en Chine. Ça c'était le coronavirus, passage d'un virus de nom animal par consommation de viande pas assez cuite ou crue. Cela avait duré à impacter l'économie de la Chine à l'époque et on avait déploré 800 morts environ à cause de cette maladie. La grande épidémie d'Ebola en 2014-2016 a fait plus de 10 000 morts, essentiellement en Afrique. Et là, c'est la transmission aussi d'un virus de l'animal à l'homme par un contact étroit avec du sang ou des sécrétions d'animaux contaminés. Et aujourd'hui, nous avons le Covid-19 qui a fait en 3 mois autant de victimes que Ebola en 2 ans. Là aussi, la transmission de l'animal à l'homme s'est fait probablement par le pangolin, qui est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise. La parole de Dieu nous encourage à rester purs. Pas seulement au niveau de nos pensées, de nos actes, mais aussi de garder notre corps pur, de respecter les séparations créationnelles que Dieu a mis en place, de pratiquer de bonnes règles d'hygiène. Voilà, que le Seigneur nous garde tous de la maladie, qu'il nous bénisse, nous fortifie, nous encourage dans chacun dans notre vie, chacun nous allons avoir à vivre les journées qui viennent d'une façon différente, avec des contraintes différentes. Je sais que le Seigneur est avec chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Nous pouvons lui faire confiance, nous appuyer sur lui. Il est là, il ne va pas nous laisser tomber. Il ne laisse jamais tomber, et surtout pas au mauvais moment. Alors, faisons-lui confiance, il nous bénisse tous. Amen.